Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, Monseigneur Lefebvre disait un jour que la notion qui a sans doute le plus souffert au Concile Vatican II est sans doute celle de l'autorité. C'est hélas bien visible aujourd'hui, que ce soit du côté des chefs qui ne recherchent plus le bien commun comme ils devraient le faire. Ils ne poursuivent que leur bien propre, leur bien particulier. Que ce soit aussi du côté des subordonnés, de ceux qui doivent obéir. C'est l'esprit d'indépendance généralisé. Et alors les conséquences n'apparaissent que trop dans les sociétés. C'est partout la dissolution, que ce soit dans l'État, que ce soit dans les familles, et aussi, autant que cela est possible, dans l'Église elle-même, partout c'est la ruine. Et quand une erreur est généralisée, nous ne pouvons pas ne pas être touchés, du moins jusqu'à un certain point, par cette épidémie morale. Alors pour éviter de nous laisser entraîner par tellement de péchés que nous ne pouvons pas ne pas voir, parce que c'est omniprésent, eh bien il faut tourner nos yeux vers la famille qui est sainte par excellence. Elle nous montrera par son exemple quelle est cette véritable notion de l'autorité, que ce soit pour ceux qui commandent comme pour ceux qui obéissent. Et puis d'abord, pour ceux qui détiennent l'autorité, ils trouveront en Saint Joseph un très grand modèle. Saint Joseph, en effet, reçoit l'autorité comme une charge donnée par Dieu. Une charge donnée par Dieu. Lorsque Saint Joseph constata que Notre-Dame était enceinte, il voulut tout d'abord la renvoyer secrètement. Non pas, bien sûr, parce qu'il aurait soupçonné la fidélité de la Vierge Marie. Il la connaissait, il l'estimait mieux que personne. Non, mais il se rappela de cette prophétie d'Isaïe. Voici qu'une Vierge concevra et enfantera un fils, et il lui sera donné le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et alors, Saint Joseph s'estima indigne de s'approcher d'un tel mystère. Il n'a pas voulu se donner cette charge de chef de la Sainte Famille. Alors, il a voulu renvoyer secrètement Notre-Dame. Jusqu'au moment où un ange est venu le voir, envoyé par Dieu, et qui lui a ordonné, au nom du souverain Créateur, de recevoir Notre-Dame avec son enfant sous sa protection et sous son gouvernement. Et c'est comme ça que Saint-Joseph a été investi de l'autorité. Et c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. On voit par là que l'autorité ne vient pas du peuple, l'autorité ne vient pas des hommes, comme le crie le monde actuel. Mais selon le mot de Saint-Paul, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui. Toute autorité vient de Dieu parce qu'elle n'est qu'une participation au gouvernement de Dieu sur les âmes. Le Créateur, en effet, a assigné à chacune de ses créatures un but propre. Pour nous les hommes, c'est le ciel, comme vous le savez. Mais aussi la Providence a tracé de toute éternité, dans son plan divin, le chemin que chacune des créatures devait prendre pour atteindre sa fin propre. Et par exemple, les animaux sont guidés par leur instinct qui leur montre comment ils doivent agir. Ils agissent sans s'en rendre compte, ils n'en sont pas conscients, mais ils sont dirigés par leur instinct dans le plan de Dieu. Pour nous les hommes, il n'en est pas ainsi. Le bon Dieu a établi sur nous des supérieurs, d'autres hommes qui doivent nous indiquer le chemin à prendre. Et par conséquent, ceux qui tiennent le gouvernail d'une quelconque société, d'une famille notamment, ne sont au fond que des délégués, des mandataires, des intermédiaires donnés par Dieu pour dicter sa volonté. Ils sont chargés de faire appliquer la volonté de Dieu par leurs subordonnés. C'est là tout leur rôle. Et ici encore, Saint Joseph est un grand exemple à suivre. Après le départ des rois mages, dit l'Évangile selon Saint Matthieu, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva et la nuit même, prenant l'enfant avec sa mère, il se retira en Égypte. Quelle obéissance pour Saint Joseph. Commander aux hommes, c'est obéir à Dieu. Pour nous, bien sûr, Dieu ne nous manifeste pas sa volonté par l'envoi d'un ange. Mais il nous parle par les circonstances, à condition, bien sûr, que nous cherchions de tout notre cœur, à travers ces circonstances, quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ici qu'intervient cette vertu du bon gouvernement. Comme lorsqu'il s'agit de gouverner notre propre vie, nous devons délibérer, objectivement, pour déterminer les meilleurs moyens à prendre pour appliquer ou faire appliquer la volonté de Dieu qui nous dicte par sa loi. Les talents de nos subordonnés et leurs difficultés, leurs vertus et leurs vices, les circonstances de temps, de lieu, de personnes, leur passé, tout cela, les chefs doivent les peser devant Dieu pour savoir ce que Dieu veut pour les âmes qui leur sont confiées. Tout cela non pas pour plaquer nos projets personnels sur ceux qui nous sont confiés, mais pour découvrir les volontés de Dieu sur eux. Un père, par exemple, ne doit pas vouloir à tout prix que son fils lui ressemble en tout point, mais qu'il lui imprègne plutôt par une bonne éducation la ressemblance de notre Père qui est dans les cieux. Qu'il n'exige pas non plus de son fils qu'il prenne forcément sa succession ou qu'il réalise les rêves qu'il n'a pas pu réaliser lui-même dans sa jeunesse. Si les faits s'y opposent clairement, il ne doit pas pousser outre mesure. Et puis surtout, il ne faut pas chercher à assurer à tout point la réussite matérielle au point de négliger le progrès spirituel et moral, qui est quand même le premier but. Oui, vraiment, dans l'exercice de l'autorité, il ne s'agit pas de faire appliquer nos volontés propres, mais celles de Dieu. Voyez Saint Joseph, encore une fois. Lorsque l'ange est venu le voir en pleine nuit, il aurait pu objecter que l'enfant Jésus avait bien d'autres manières de se tirer de la colère d'Hérode. Comme Dieu, l'enfant Jésus était maître de la vie et de la mort. N'aurait-il pas été plus digne de sa toute-puissance et de son infinie dignité, il était Dieu quand même, de faire périr ce tyran, c'eût été tellement plus simple en plus. Non, toutes ces pensées humaines, trop humaines, n'ont pas touché l'esprit de Saint Joseph. Et aussitôt, en pleine nuit, sans même attendre le lever du jour, Saint Joseph se lève, il réveille l'enfant et sa mère, et il part pour un long, pour un dur exil. selon la volonté de Dieu. Et ici, il faut aussi admirer la soumission de Notre-Dame et de l'enfant Jésus. Elle nous montre dans quel esprit nous devons obéir à nos propres supérieurs. Déjà, si l'enfant Jésus, si Notre-Dame obéissent à Saint Joseph, ce n'est pas évidemment à cause de la sainteté de celui-ci qui aurait été plus grande que celle de l'enfant Jésus de Notre-Dame, c'est évident. Ce n'est pas non plus à cause des qualités humaines de Saint Joseph. Là encore, Saint Joseph ne pouvait pas rivaliser sur ce plan avec celle qui avait reçu l'abondance de tous les dons de Dieu comme future mère du Sauveur, ni a fortiori avec la sainte humanité du Christ assumée par Dieu lui-même. Non, si Notre-Dame, si Jésus obéit à Saint Joseph, c'est parce que celui-ci, en tant qu'époux de la Vierge Marie, en tant que père nourricier de notre Seigneur, était placé par le fait même à la tête de la Sainte Famille. Il tenait la place de Dieu le Père dans la maison de Nazareth. Vous voyez donc que Marie, que Jésus, avait une obéissance vraiment toute surnaturelle. Ils obéissaient à Dieu, en fait, à travers et dans la personne de Saint Joseph. Et puis ici, avec quelle humilité, chers fidèles, ne devons-nous pas considérer cette obéissance de notre Seigneur. Il obéit à un homme alors qu'il est Dieu. Quelle leçon pour nous. Cette leçon était tellement importante que notre Seigneur a voulu passer 30 ans de sa vie dans une vie cachée, humble et laborieuse. Et aussi, Notre-Dame, l'enfant Jésus et Saint-Joseph aussi, mettaient vraiment un très grand soin dans cette obéissance, dans l'accomplissement de leur devoir d'État. Les évangiles de l'enfance sont très brefs, ils n'en parlent pas explicitement, mais nous en avons une manifestation dans la tunique que portait notre Seigneur, qui a été confectionnée, bien sûr, par Notre-Dame. Cette tunique était sans couture, c'est-à-dire qu'elle n'était pas composée de plusieurs morceaux, comme les vêtements ordinaires, cousus ensemble, mais elle n'était faite que d'une seule pièce, de haut jusqu'en bas. Et toutes les femmes de Palestine cherchaient à réaliser de telles tuniques. C'était un peu comme une mode, si on veut. Simplement, très très peu y arrivaient, parce que cela demandait une telle attention, un tel soin, une telle patience, une telle habileté que c'était humainement presque impossible. Alors dans cette tunique sans couture, nous avons une preuve, un indice, une manifestation de ce soin extrême que mettait Notre-Dame dans l'accomplissement de ses charges, de ses charges tout ordinaires, comme confectionner des vêtements. Et enfin, notre Seigneur a voulu aussi nous montrer les limites de l'obéissance rendue aux hommes, précisément dans l'évangile que nous avons lu, celui du recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Notre Seigneur demeura dans le temple à l'insu de ses parents. Saint Joseph, Notre-Dame, pendant 3 jours durant, ont dû le chercher, en proie à la plus grande douleur. Et quand Notre-Dame lui demande pourquoi il agit ainsi, notre Seigneur lui répond, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père, c'est-à-dire de Dieu ?» Oui, l'obéissance s'adresse d'abord à Dieu, qui peut demander parfois des actes douloureux. C'est l'histoire de beaucoup de vocations, que ce soit sacerdotales ou religieuses. Mais il peut arriver aussi non pas bien sûr dans la Sainte Famille, mais dans ce monde de péché, que les autorités humaines donnent des ordres contraires à la loi de Dieu. Ils veulent se servir de cette autorité qu'ils ont reçue de Dieu avec la mission de coopérer à son gouvernement sur le monde, mais contre son auteur, contre Dieu. Et là, ce scandale, nous le voyons tous les jours et jusque dans les plus hautes sphères de l'Église. Le règne de notre Seigneur se trouve sans cesse combattu par le pape, par la Rome moderniste, qui devrait pourtant l'appliquer, l'étendre partout. Et c'est alors qu'il faut répondre, comme les apôtres ont répondu aux prêtres juifs qui voulaient les empêcher de prêcher. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Que la Sainte Famille nous donne donc cette vision vraiment surnaturelle de l'autorité. Qu'elle nous accorde la grâce de voir dans le chef un délégué de Dieu, chargé de la réalisation d'une partie de son plan sur le monde, sur les hommes. Et alors nous gouvernerons les âmes qui nous sont confiées selon les vues de Dieu, dans un grand esprit de justice, sachant que le souverain juge nous demandera un compte sévère de l'accomplissement de notre tâche. Et alors nous nous soumettrons à nos supérieurs en voyant dans leurs ordres la volonté même de Dieu, notre Père. Notre obéissance sera donc prompte, joyeuse, entière. Oui, demandons cette grâce à la Sainte Famille, spécialement lorsque nous méditons les mystères joyeux de notre rosaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.